Chapitre 5. André goûta une joie d'enfant lorsqu'il fut installé dans son nouveau logement. Après les courses furibondes aux quatre coins de Paris pour acheter les ustensiles qui lui manquaient, après les angoisses du déménagement effectué comme d'habitude par des maçons aux trois quarts ivres, les difficultés à caisser, caser les meubles sans contrarier le jeu des fenêtres et des portes, les batailles contre la brique des murs qui repoussait et tordait les clous, les fatigantes recherches à quatre pattes dans le tas des volumes vidés en bloc sur le parquet, André, avec l'aide de Cyprien, était enfin parvenu à organiser son intérieur. Il avait repris toute sa gaieté, flânait pendant des journées entières, décraquelait ses faïences avec de l'eau de Javel, ravivait avec les feuilles restées au fond de sa théière les couleurs de ses tapis, rêvait à des améliorations de confortables, à de nouveaux achats de bric-à-brac et de livres. Une semaine s'était écoulée. Tout était définitivement en ordre, les papiers rangés sur la table, prêts pour le travail. Il avait recommencé avec Mélanie, son petit train-train. Il la retrouva telle qu'il l'avait laissée, fluette et plate d'appât, le nez crochu, les yeux ronds, un signe poilu au-dessus de la lèvre supérieure, le teint rouge sous ses yeux blonds, bruni par le grand air et par la pommade. Elle portait les mêmes bonnets à petits tuyautés, les mêmes rubans poireaux et groseilles, les mêmes canzous à soustache, la même broche enfermant sous verre une photographie de son époux, les cheveux bouffants en ailes de pigeon, la moustache tirée, l'œil roide et faro dans sa tenue de sergent de ville. Elle n'avait ni vieilli ni engraissé, possédait toujours son entêtement d'auvergnate, sa quasi-honnêteté dans le carottage, sa joie à faire la cuisine et à ravauder les chaussettes des autres. Comme jadis, elle était incapable de construire un feu, mettait deux petites bûches au fond et un gigantesque billot par-dessus, amoncelait les cendres en des tas sous les chenets de façon à empêcher le tirage, ou bien elle les ôtait toutes et donnait ainsi à l'âtre un air lamentable de cheminée neuve. Elle persistait également à lui rafler tous ses journaux pour couvrir la table et le buffet de l'office, à découper son papier blanc en dents de scie pour l'ajuster en guise de lambrequin sur le manteau de sa cheminée de cuisine, cassait l'anse des tasses, les rafistolait tant bien que mal, de manière que son maire pût croire en le prenant qu'il les avait lui-même rompus, brisait les crayons qu'elle chipait sous le prétexte d'inscrire des dépenses, conservait la manie de mettre les portes allumettes dans les cendriers et de cirer le bout verni des bottines de bal. Comme jadis, elle versait de l'eau bouillante dans les verres et sur les couteaux pour les laver, et elle éprouvait des stupeurs énormes lorsque les uns se fêlaient et que les autres perdaient leur fil. Elle oubliait régulièrement dans les sauces les bouquets ficelés de laurier et de thym, laissait en balayant le salon son plumeau sur un meuble, forçait son maître à enlever chaque jour l'amas des journaux et des livres qu'elle récoltait dans des chambres et entassait sur le bureau, juste à la place où il voulait écrire. Ses défauts retrouvés ne déplurent pas à André. Il les attendait au passage, les salua comme des connaissances, s'étonnait malgré tout de ne les voir ni diminuer ni grandir. Il constata avec satisfaction que la bêtise de sa bonne était demeurée stationnaire. Puis des défauts qu'il avait négligés se montrèrent un à un dès que l'occasion se présenta. Il dut répéter pour la millième fois et sans la moindre chance de succès d'ailleurs les mêmes observations qu'avant son mariage. Il la supplia de ne pas remplir d'eau de savon le broc des lieux, de ne pas garder son plomb débouché, de ne pas essuyer l'intérieur de sa théière, de ne pas ajouter enfin à la poudre du café moulu l'ancien marc qu'elle s'obstinait à maintenir dans le filtre. Il insista également pour manger du gros pain et non du pain riche ou des flûtes jocos qu'elle affectionnait. s'éleva contre l'abus des champignons dans les sauces, contre sa manie de sucrer les épinards et de cuire à tel point le bœuf qui s'effilochait sous le couteau en de longs filaments mous. Somme toute, il ne pouvait se plaindre. En même temps que ses inepties et que ses balourdises, Mélanie avait rapporté des qualités inconnues, aujourd'hui des bonnes. Une propreté merveilleuse, un soin rare de ménagère, une certaine affection pour l'intérieur qu'elle balayait. Elle fourbissait, récurait, frottait du matin au soir, reprisait les nippes, remettait aux chemises des cols et des poignets neufs, menait la maison sans qu'il eût à s'occuper ni du blanchissage, ni de toutes ces harcelantes et menues sottises qui dégoûtent du célibat les plus opiniâtres et les plus braves. André se carrait pour l'instant dans son bonheur, se levait tard, traînait en chemise, fumait des cigarettes jusqu'à l'arrivée de sa bonne qui lui apportait les journaux, et brossait ses hardes, puis il allait se promener, revenait pour déjeuner, classait ses notes en attendant qu'il reprît son livre arrêté depuis le désarroi survenu dans son ménage. Dérangé, un peu offusqué tout d'abord par la disposition nouvelle de ses meubles, estimant qu'ils étaient en comparaison de ceux qu'il possédait jadis dans une vaste pièce, singulièrement étriqué dans ce petit réduit, il parvint peu à peu, à mesure que le souvenir de son salon d'homme marié s'atténuait, à trouver que cette chambre était claire et gaie. Bientôt, elle lui parut s'être déjà imprégnée de cet indéfinissable charme que dégagent des logements où l'on ne retrouve pas seulement pour se coucher, mais des logements où l'on vit pendant des journées entières, où le soir, des rires d'amis se croisent, succédant au silence des heures de travail, égayant avec leurs francs éclats l'air recueilli des murs. Il arriva enfin à juger suffisamment large et commode cette pièce minuscule, si bourrée de bibelots et si bondée de meubles qu'on ne pouvait s'y tenir à plus de 3 personnes ensemble. Du plafond au plancher, les murs disparaissaient sous un fouillis de faïence, de tableaux, de cuivre, de porcelaine du Japon, au milieu duquel deux aquarelles impressionnistes étincelaient dans leur barre d'or sur le fond bistré du papier de tenture. Une vue de coulisses avec des danseuses en gaze rose, au repos, devant des portants barbouillés de verdure, des petites voyoutes exquises, lutinant de grands dadais empesés dans leur tenue de bal, une vue de salon avec des messieurs ennuyés et aimables, des femmes excitantes et frivoles, étroitement lacées dans des armures de soie pâle, les bras et les épaules nus, le corsage grand ouvert, étayant de ses bosses cachées les touffes blanches des seins. Puis venaient dans la pièce, amoindrissant encore avec leurs avances et leurs saillies le peu d'espace laissé libre, une table, des chaises, un guéridon de vieux chêne et un divan tapissé de toile bise brochée de fleurs amarantes, flanqué à droite, d'une large bibliothèque où, rangée en bataille, une armée de bradelles, jaune de canari et sang de bœuf pétardaient, éteignant avec leur soleil d'artifice toutes les pièces tranquilles. Les tristes discrets lavalières, les sévères jansénistes, sans dentelle ni flaflador, les cartonnages ordinaires, bons enfants et un peu canailles, pincés dans leurs blouses de toile bleue ou grise, les reliures de chagrin aux mines de bourgeoises et de cuistres. À gauche, d'une autre bibliothèque plus petite, pleine celle-là de volumes brochés, et là encore, deux larges taches saillaient, deux files de volumes marchant en tumulte, battant le général, les uniformes jaunes de l'éditeur Charpentier, les tuniques rouges de la Légion étrangère d'Hachette. André avait changé bien des fois déjà ses livres et ses tableaux de place. Après des tâtonnements et des essais, il avait enfin ordonné le tout de telle manière que les formes et les couleurs se répondissent, que les flammes de ponche allumées au biseau des glaces, que les luisants postés sur les lignes d'or des cadres et dans les creux irisés des assiettes aidassent à égayer la pièce, qui demeurait encore sombre lorsque sortait, entre des interstices de bibelots et de meubles, le ton grave et foncé des murs. Quelques semaines passèrent. La tranquillité de cette nouvelle existence remit André sur pied. La convalescence s'achevait. Après les prostrations qui suivirent la crise, il était entré en pleine voie de guérison, pensait moins souvent à sa femme, avait simplement gardé d'elle un souvenir lent et triste. Par instant même, il lui semblait être toujours resté garçon. Le passé lui apparaissait lointain et confus comme ces vagues souvenirs que l'on conserve, même rétablis, des hallucinations entrevues pendant la fièvre. Il croyait avoir atteint la délivrance qu'il souhaitait. Il ne doutait plus que ce rêve caressé, rayé 2 années de sa vie, ne put enfin devenir possible. Il s'abandonnait aux gâteries enveloppantes de sa bonne. Excellente cuisinière, Mélanie, pour reprendre son influence dans la maison, lui prépara des mets à se lécher les doigts, des fritures qu'elle réussissait d'étonnante façon, d'impérieuses rémolades, des pétulantes ravigotes, voire même quelques bons plats familiers, tels que veau à la casserole, mireton embruné de moutarde, lapin aux pommes sauté dans d'incomparables sauces au vin. Puis c'était Cyprien qui arrivait souvent pour dîner au hasard du pot, et c'était des repas charmants où l'on causait d'art, où l'on s'attardait les coudes sur la table, dégustant des petits verres, chassant la fumée des cigarettes qui montaient en tourbillonnant sous l'abat-jour. Or ces jours-là, Mélanie était superbe. Prise à l'improviste, elle servait en quelques minutes un dîner suffisant et passable, appuyait les plats de consistance trop courts de mirifiques omelettes au fromage, parait à tout, apportait le café, puis le panier au bras, roulant entre ses doigts le cordon de son tablier. Elle répétait la phrase mécanique de tous les soirs. « Monsieur n'a plus besoin de rien ?»« Non, Mélanie. Alors bonsoir, monsieur. » Et elle partait confectionner à son tour le dîner du sergent de ville. Ces distractions de longues causeries, ces rires d'amis bavardant sans gêne, employant les mots crus qu'affectionnent en général les hommes de lettres et les peintres, les bariolages d'argot et de termes de métier qui salent si vivement, l'échange des questions et les ripostes infusèrent à André une ardeur nouvelle. Après les froids ennuis, après les accablantes giboulées de la vie maritale, une embellie semblait prête à luire. Le retour de son ancien compagnon le retrempait. Il avait soif de travail, et excité par toutes ces discussions qui se passionnaient autour de la table, il voulait se prouver qu'il n'était pas déchu et que son talent s'était échappé intact de la bagarre. Mais, dans les premiers temps, sa bonne volonté, ses élans échouèrent. Maniaque, ainsi que la plupart des artistes, il ne pouvait travailler que dans un logement qu'il connaissait bien. Afin que son œil ne flânât point, malgré lui, sur les bibelots accrochés au mur, il fallait qu'il se fût assez familiarisé avec les angles et les teintes de ces objets pour ne plus les apercevoir quand bon lui semblait. Sa manie était irrépressible. Il ne pouvait même travailler sur sa table autrement placée que de coutume. Il avait donc, tout d'abord, usé de longues heures à examiner un à un ses bibelots, ses livres, puis à en embrasser l'ensemble, à s'en remplir les yeux, à les gaver de telle sorte que leur appétit de distraction cessa. C'était une affaire de 15 jours au moins. Cette période était écoulée depuis longtemps déjà, et cependant, quoi qu'il tentât pour s'entraîner, ses efforts rataient. Il se mettait devant son bureau, voyait la scène qu'il voulait décrire, saisissait la plume et il demeurait là, inerte, comme ces gens qui, après avoir longtemps espéré le dîner, ne peuvent plus avaler une bouchée dès qu'ils sont à table. Il en déchirait son papier de rage. Pour un peu, il se serait cru idiot. Il appréhenda que son intelligence eût été tout d'un coup faussée. Il se désola, pensant qu'il resterait peut-être frappé d'impuissance, puis il regimba, se rappela les quelques bonnes pages qu'il avait autrefois écrites pour affermir son courage, suivit les conseils de Cyprien, qui l'engageait à ne pas se surmener, à laisser la machine reprendre tranquillement haleine. Il s'occupa de travaux de retouche, rebouta les termes pied-bot, obtura les trous, émonda les végétations de ses phrases, attendit comme le mécanicien qui promène sa bête sur le rail pour la mettre en train, qu'elle fût assez chauffée pour gagner le large. Et c'était de longs débats avec lui-même, des luttes engagées contre Cyprien qui, le voyant irrésolu, moins entier et moins stable dans ses idées, tentait de lui inculquer ses théories, des théories faisandées et morbides, qu'André repoussait l'ordinaire, tout en reconnaissant la curiosité et la justesse de quelques-unes. Et Cyprien revenait à la charge, et trompé par le silence de son ami, le croyant indécis, sur le point de céder, il répétait un à un ses arguments, expliquait longuement la nouveauté de ses aperçus, citait des exemples pour les faire valoir. L'accent d'un paysage était selon lui donné par les tuyaux d'usine qui s'élevaient au-dessus des arbres et crachaient jusqu'au nuage des flocons de suie. Il avouait d'exultantes allégresses, alors qu'assis sur le talus des remparts, il plongeait au loin, voyait les gazomètres dresser leurs cascasses à jour et remplies de ciel, pareils à des cirques bâtis de murs bleus et soutenus par des colonnes noires. Alors le site prenait pour lui une inquiétante signification de souffrance et de détresse. Dans cette campagne dont l'épiderme meurtri se brosselle comme des hideuses croûtes, dans ces routes écorchées où des traînées de plâtre semblent la farine détachée d'une peau malade, il voyait une plaintive accordance avec les douleurs du malheureux, rentrant de sa fabrique, éreinté, suant, moulu, trébuchant sur les gravats, glissant dans les ornières, traînant les pieds, étranglé par des cannes de toux, courbé sous le cinglement de la pluie, sous le fouet du vent, tirant, résigné, sur son brûle-gueule. Il voyait, dans la banlieue qui s'étend autour du Paris pauvre, la maladrerie de la nature, l'hôpital Saint-Louis, des paysages et des sites et de mélancoliques douceurs lui venaient, des apitoiements charitables pour cette nature souffreteuse qui accélérait avec ses souffles meurtriers les incurables maux engendrés par la boisson et par la famine. « Ah ! Ah ! » s'écria-t-il un soir de grande discussion, un de ces soirs où, énervé par les petits verres, il parlait à flot. « Ah ! Pantin, Aubervilliers, Charonne, voilà les quartiers poitrinières des charmants. Et parbleu, tu n'as pas besoin de me regarder de la sorte. Je sais d'avance ce que tu vas me dire, qu'il n'y a point que ces quartiers-là. Mais j'aime aussi les autres. Mais il est vraiment, enfin, je les aime. Oui, j'aime les grands boulevards avec leurs rumeurs de foule, leurs cafés pleins, leurs bois de gommeux et de coulissiers, et j'en raffole, la nuit surtout, vers 2 heures, alors que passe sur l'asphalte la chasse désolée des filles. Et puis veux-tu que je te dise ? Eh bien, moi, qui suis réputé être exclusif dans mes opinions, je me crois beaucoup plus éclectique et plus large que toi, car en fin de compte, quelle qu'elle soit riche ou pauvre, somptueuse ou mesquine, je trouve que la rue est toujours belle. J'y jouis démesurément le soir, par exemple, quand étincelle aux flambes du gaz les lettres d'or collées sur le fronton ou sur les portes vitrées des boutiques. Je les lis, j'apprends le nom du commerçant, je vois qu'il est le gendre et le successeur d'un tel, et je regarde par les carreaux toute la famille, installée dans le fond autour d'une table. La maman qui ronronne, assoupie, les deux mains sur le ventre, le papa, la fille, le gendre et successeur qui jouent au 31 et jabotent les yeux fichés sur leurs cartes. Ça me donne envie d'entrer, d'offrir des rabais énormes sur le prix de leurs marchandises, d'apporter ainsi un aliment inattendu aux niaiseries que ces gens vont se débiter jusqu'à l'heure de la fermeture. Oui, mon bon, voilà. Et ces joies délicieuses de la rue, je les goûte le matin aussi, quand je flâne sur les trottoirs. Alors j'examine les fillettes qui ont découché et qui trottinent, secouant un tantinet leurs jupes, baissant des yeux battus, laissant courir menu sur le bitume des bottines pas fraîches. Elles ont un je ne sais quoi d'alangui et de palot, qui révèle l'insomnie laborieuse de la nuit, un je ne sais quoi dans leur linge encore propre, mais un peu froissé, dans leur allure ralentie, dans leur façon de porter la violente voilette et de relever la robe qui indique la hâte de l'habillage, la gêne des ablutions qu'on n'a pas pu pratiquer chez soi. Dans le nombre, il y en a d'adorablement honteuses que mon sourire paternel gêne bien un peu. Celles-là filent plus vite, et moi, tout en les suivant des yeux, je m'offre des plaisirs intimes. J'évoque derrière la grâce mutine de leur marche des déceptions érotiques ou pécuniaires, des désordres d'oreiller dans des chambres tièdes, et après le long baiser usité en pareil cas, le secret contentement du monsieur qui voit enfin partir de chez lui la femme. Vue ainsi, la rue est toujours splendide et toujours neuve. Elle regorge, si fanée qu'elle puisse être, d'innombrables délices que bien peu comprennent, car les saintes écritures ont raison. La terre est remplie de gens qui ont des yeux pour ne pas voir, et malheureusement nous faisons tous plus ou moins partie de ceux-là. C'est qu'il n'y a pas à dire, mon vieux. Nous sommes imbibés et saturés de toute une lavasse de lieux communs et de formules. Il nous faut du pittoresque, des architectures à effet, des rues bizarres avec des clairs de lune, des montagnes et des forêts. Il nous faut des sujets de description qui prêtent. Il m'enquiquine à la fin tous ces gens qui viennent vous vanter l'abside de Notre-Dame et le jubé de Saint-Étienne-du-Mont. Ah, ça, bien, et la gare du Nord et le nouvel hippodrome, ils n'existent donc pas? C'est vrai, ça, ils sont un tas de vieux baladins qui vous sortent des enthousiasmes sur commande quand ils parlent des anciennes basiliques ou de ces chalets en pierre de taille qu'ils appellent les merveilles de l'art grec. Ils en ont plein la bouche. Et qu'ils aillent au diable avec leur Parthénon. S'ils aiment ce genre de bâtisse-là, qui se plante au milieu de la place de la Concorde, ils en auront deux de Panthéon, un par devant et un par derrière. Qui s'installe à demeure devant la bourse, ils en verront un autre encore. Égayé pourtant, car on a eu le bon sens de lui camper une horloge dans la façade et de lui ficher les tuyaux de cheminée sur le toit. Ça rend au moins l'harmonie de ces grandes lignes bêtes. Et dire que ça va continuer pendant des années encore. Dire que des générations entières d'artistes vont acheter des réductions de la Vénus de Médicis, une bégueule qui a une tête d'épingle sur un torse de lutteuse de foire. Quelque chose de propre que cette dondon qui profite de ce qu'elle a des bras pour se cacher le ventre. La Vénus que j'admire, moi, la Vénus que j'adore à genoux comme le type de la beauté moderne. C'est la fille qui batifole dans la rue, l'ouvrière en manteau et en robe, la modiste au teint mat, aux yeux polissons, plein de lueurs nacrées, le trottin, le petit trognon pâle, au nez un peu canaille, dont les seins branlent sur des hanches qui bougent. Oh, la chlorose des petites ouvrières et le phare allumé des fillasses qui rôdent. Ça m'excite et j'en rêve. Quand on songe qu'à Paris, nous ne sommes peut-être pas plus de 3 peintres qui pensions ainsi. Et le monde en est là, et le Messie ne vient pas. Ah, si tous, tant que nous sommes, nous n'étions pas gangrenés par le romantisme. Si au lieu de guérir notre infection, nous ne nous bornions pas à la blanchir. Si l'on inventait enfin une iodure qui puisse dépurer les cervelles d'artistes, nous verrions à coup sûr bien d'autres beautés modernes qui nous échappent. Et Cyprien, valet des Verdeaux, se promenait de long en large, continuant à exhaler ses plaintes, à répéter ses espérances aux quatre coins de la pièce. André le laissait déclamer. Les tirades exaspérées du peintre l'intéressaient. Elle lui rappelait le temps où ils discutaient pendant des journées entières. Aujourd'hui, Cyprien criait dans le désert. André le contredisait le moins possible, s'étant depuis longtemps aperçu que son ami était de ces gens qui, possédés par un sujet, n'écoutent même pas les arguments qu'on leur oppose et s'acharnent, sans soucier des démentis et des répliques, à exposer leurs doctrines et leurs systèmes. André n'admettait point d'ailleurs toutes les idées de son camarade. Partant d'un point de vue commun, épris tous les deux de naturalisme et de modernité, tellement frottés l'un à l'autre qu'ils avaient un genre d'esprit semblable, une vision mélancolique de la vie innée chez Cyprien et graduellement développée par ses déboires et par ses échecs, moins instinctive et plus factice chez André, sur lequel peu à peu le compagnonnage du peintre avait déteint, ils ne voyaient cependant pas de la même façon. Ils se séparaient au premier chemin rencontré sur la route qu'ils parcouraient ensemble. Leurs tempéraments différaient. Grand et blond, maigre et blême, Cyprien avait une barbe pâle, de longs doigts effilés et pointus, une main remuante, un œil gris aiguisé, des cheveux hérissés de poils blancs. Il battait le briquet en marchant, usait le bas de sa culotte régulièrement trop courte et trop large aussi pour ses tibias minces. Avec son dos un peu courbé et son épaule gauche légèrement déjetée, il paraissait maladif et pauvre. Sa façon d'arpenter les rues était pour le moins singulière. Il avançait par sursaut, piétinait sur place, s'élançait tout à coup ainsi qu'une grande sauterelle, filait à toute volée, tenant son parapluie sous le bras comme un magistère, se frottant sans raison les mains. Cyprien était bien l'homme de sa peinture, un révolté au sang pauvre, un anémique subjugué par des nerfs, toujours vivant, un esprit fouilleur et malade, obsédé par la sourde tristesse des névroses, éperonné par les fièvres, inconscient malgré ses théories, et dirigé par ses malaises. Mal équilibré, versant à gauche et à droite, il était incapable de produire une grande œuvre. Mais il avait par moments une outrance, une audace de peinture curieuse, une recherche souvent réussie d'effets inosés, une note bafouante et cruelle, sur la fille surtout, la montrant telle qu'elle est, avec les honteuses pourritures de ses dessous et les corruptions opulentes de ses dessus. Moins lymphatique et moins nerveux, moins rebellé et moins épropre, André allait lui aussi de l'avant, mais bien qu'il s'emballât et prêchât moins, il raisonnait davantage. C'était un garçon bien découplé, ni gras ni maigre, un peu jaune de teint comme les bilieux, le front court et touffu, la petite moustache noire ébouriffée comme celle d'un chat, le menton à fossette, rasé et bleu, les doigts spatulés et velus, l'œil doux avec de longs cils, les lèvres pâles et les dents mauvaises. Il était bourgeoisement vêtu, sans négligence et sans pose, appartenait à cette race de gens qui ne se crottent jamais et dont les habits même râpés semblent toujours neufs. Sous une apparence d'homme délibéré, il cachait une timidité de jeune fille, une peur terrible du qu'en dira-t-on et du ridicule. Il hésitait, dans les circonstances les plus simples de la vie, à prendre un parti. Oscillait, voyait des difficultés partout, les résolvait parfois avec la bravoure d'un poltron et regrettait deux minutes après la fermeté dont il avait fait preuve. Il connaissait assez la vie pour vous démonter le mécanisme des vertus et des vices de son prochain. Il vous expliquait clairement le caractère de la femme des autres, désignait les mesures à prendre pour éviter leur supercherie et leur traîtrise, perdait peu à peu sa lucidité d'analyse dans son propre ménage, ou bien quand il demeurait clairvoyant, il parait le coup qu'il menaçait, puis, fatigué, Il se découvrait, se laissait frapper d'autant plus rudement par son adversaire qu'il l'avait d'abord échauffé par la résistance. Et ce bon sens et cette finesse si vive et moussée, si vite trahie, il le suivait dans ses livres. Là, comme dans son existence, il était entêté, faible, sans juste mesure. Entêté devant une idée qu'il était décidé à émettre, faible devant les difficultés qui se levaient lorsqu'il s'agissait de lui donner un corps et de la rendre. Il persistait dans sa volonté, mais il n'essayait même pas de tourner l'obstacle, se bornait à l'épier, attendant prudemment une occasion, un moment propice. Au fond, il bloquait une œuvre pour ne pas lui livrer à saut, et une fois campé devant elle, il se relâchait et s'acagnardait dans l'inaction. Bien qu'il s'obstinât à ne pas entamer un chapitre autre que celui contre lequel il se battait, il ne parvenait pas à réagir contre ses défaillances, contre son ennui. La chose aussitôt commencée le lassait. Il relisait le chapitre entamé, puis se promenait, cherchant la suite. Finissait par feuilleter un livre et enfoncer dans un fauteuil, loin de sa table de travail, il ne songeait plus à son œuvre, absorbé par celle des autres. Il n'avait pas, au demeurant, le coup instinctif et furieux, le coup inattendu et lancé droit de Cyprien. Mais d'un autre côté, n'eût été son inconstance dans le travail, son apathie dans la vie, son niant-niant dans l'attaque, il aurait créé une œuvre moins brillante, moins saccadée, moins accomplie, au petit bonheur, mais plus sagement conçue et plus solidement faite. Avec les nécessités de ce tempérament impressionnable, avec ses nécessités de quiétude et de bien-être, ce dégoût des choses acquises, ce manque de ressort devant une résistance, ce caractère versatile et mal assis, il avait forcément abouti, dans ses livres, à un ou deux romans lentement piochés et douloureusement bâtis, et dans son existence, à la placidité désirée du mariage, à l'amour bon enfant, dans une couche bourgeoise. Avec les surexcitations de ses chloroses et ses lambinages maladifs, Cyprien devait, dans son art, après avoir flâné, travailler les jours de secousse dans un coup de feu. Il devait forcément encore, dans la vie après avoir longuement rêvé, chercher sur des literies de rencontres l'apaisement de ses folies charnelles. Fortement échaudés l'un et l'autre par les femmes, André n'y songeait plus qu'avec une certaine douceur si triste. Cyprien les considérait d'une façon ardente et inquiète. Leurs œuvres marquaient cette différence des caractères. Unis dans une commune haine contre les préjugés imposés par la bourgeoisie, ils s'encourageaient mutuellement, méprisant l'opinion de la foule, la défiant, acceptant les insuccès, très à l'écart du monde des lettres et des peintres, régulièrement éreintés par tous les journaux, par tous les confrères qui leur reprochaient leur isolement et leur dédain. Et leur amitié d'enfance s'était affermie dans la lutte qu'ils soutenaient. Ils avaient toujours vécu ensemble, et à part quelques bisbilles venues à la suite de cancans de femmes qui les avaient comme de juste divisées, jamais aucune brouille, aucune querelle ne s'était élevée entre eux. Il avait fallu le mariage d'André pour briser tout d'un coup l'intime de leur relation. Ils se manquèrent désunis. L'épisode du dîner ne laissait aucun doute sur les dispositions malveillantes de Berthe. André ne vit bientôt plus son ami que chez les Desablots, qu'il invitait dans l'espoir qu'il rentrerait pour rien un portrait de famille. Ainsi étaient justifiées les prophéties de Cyprien. Pécore ignorante et grincheuse, ami fichu de la porte et enfin éclatant comme la gerbe finale, comme le bouquet de ses embêtements, le cocuage opéré par un gomme fade. Ce fut pour André, du reste, un bonheur que de se retrouver près du peintre, car celui-ci soufflait avec ses fièvres des ardeurs de travail aux autres. Il poussait maintenant André, l'épée dans les reins, n'acceptant plus l'excuse des habitudes rompues et du logement fraîchement habité. Il le talonna de telle sorte qu'André se réattela son livre. La machine semblait avoir réparé ses rouages, mais elle fonctionnait avec lenteur. Il s'appesantissait des journées entières sur une page, mais il était somme toute très satisfait. La mise en train de son œuvre était terminée, et il n'avait plus d'inquiétude, ne doutait pas qu'il ne pût prochainement abattre de la besogne comme au bon temps, et il passait des journées charmantes de labeur et de flâne, s'escribant à petits coups, se frottant joyeusement les mains, s'installant au soleil sur sa terrasse, fumant des cigarettes, regardant curieusement par les fenêtres d'un ministère situé vis-à-vis des siennes, l'intérieur des bureaux, des enfilades de cartons verts à poignées de cuivre, des tables de bois noir à casier, des chaises de canne, des corbeilles, des cuvettes et des carafes, des cabrioles pleines de fliches, des amas de dossiers énormes. Il avait en face de lui juste deux employés enfermés dans la même pièce, l'un dont on apercevait le profil joufflu, l'autre qui voûtait un dos dont l'échine saillait, puis une tache blanche entrevue au fond du bureau, derrière les vides de la croisée, disparaissait, ouvrant un jour sur une autre pièce et des gens entraient, des papiers à la main, bavardaient, s'asseyaient sur des coins de table, puis partant, ils déplaçaient, remettaient de nouveau la tache blanche en place. Ce micmac intéressa André. Il commençait à connaître les habitudes de ses deux voisins. L'un d'eux, un noble homme de 50 ans environ, l'air minable et bénin, venait tôt, changeait de bottines et d'habits, s'installait longuement, disposait en bon ordre ses crayons et ses plumes, lisait le petit journal jusqu'aux annonces, mangeait un croissant de 2 sous à 3 heures, réglait propre beaucoup de papier jaunâtre. Celui-ci devait demeurer dans les fonds lointains d'un Vaugirard ou d'un Vanves quelconque, être marié et mal à l'aise dans son ménage. Il sortait furtivement dans la journée, revenait parfois avec un petit paquet qui semblait contenir des chaussures d'enfant, et il recevait des lettres dans son bureau. L'autre, plus jeune, arrivait tard, une serviette de chagrin sous le bras, s'asseyait, morose et grognon, se barricadait derrière des monceaux entassés de liasses, cachait les papiers qu'il gribouillait dès qu'on ouvrait la porte et se sauvait de bonheur. Celui-là devait travailler au dehors et être célibataire, en juger par sa hâte à déguerpir par les cure-dents de gargote qu'il mâchonnait tout en écrivant. Et au-dessous et au-dessus de lui, du haut en bas du ministère, par les hautes fenêtres du premier, par les croisées plus basses des autres étages, par les lucarnes étranglées du faîte, André voyait des hommes pareils, fumant, écrivant, lisant des journaux, virant et tournant, accouplés dans des pièces semblables. Puis il se fatiguait à contempler l'ennui de ces malheureux, et se penchant sur la balustrade de sa terrasse, il plongeait au loin, enfilait d'un coup d'œil toute la rue qui arborait une allure de bourgade lointaine, avec son rond-point, triste comme la petite place d'une sous-préfecture de dernière classe. Ici et là, près d'un dépôt de voiture que surveillait un vieillard boiteux, des cuisiniers d'hôtel bâillaient dans leurs casaques blanches, échangeaient le bonjour avec des cochers en train de donner l'avoine, avec des marmitons embusqués derrière le grillage des croisées de cuisine, avec le commissionnaire en vedette sur le seuil du marchand de vin. Morne le matin et déserte le soir, la rue Cambacérès ne commençait à s'animer que vers les 11 heures. Alors une chaîne de garçons de bureau portant des mazagrans et des carafons de cognac, des œufs sur le plat, des bouteilles cachetées, des assiettes fumantes ou couvertes, se déroulaient depuis la boutique d'un mastroquet jusqu'au ministère, et là, ils se rejoignaient, se groupaient, riant, les mains pleines, avec un sergent de ville en faction près d'un tonneau de charbonnier, avec les hommes de peine au livret bleu lin, avec le cantonnier chargé d'arroser la rue. Puis les visites, d'abord rares, arrivaient maintenant en foule. Des fiacres accouraient de tous les points, et s'arrêtant devant l'entrée pavoisée d'un drapeau tricolore, vidaient sur le trottoir, près de la guérite inoccupée d'un factionnaire, des gens affairés qui portaient sous le bras des journaux, des papiers, des livres, se perdaient sous la voûte de la porte cochère, se reparaissaient plus que depuis longtemps après, consultaient leurs montres et semblaient embêtés pour la plupart. D'autres, comme des figurants et des machinistes, qui connaissent les escaliers de service, des coulisses et de la scène, disparaissaient par une porte voisine, par la petite porte du numéro 9, semblable à l'entrée des artistes de ce théâtre, et des mères nobles, de vieilles dames au boudin flageolant sous leur bride, venues pour quémander des pensions ou des secours, apprêtaient sur le seuil leurs mines contrites et préparaient leurs larmes. Mais c'était vers 3 heures surtout que la hâte de la rue s'accentuait. Une procession défilait d'importants messieurs, des députés, des sénateurs, des préfets et d'autres messieurs décorés de ronds rouges, sortaient des bureaux, leur serraient respectueusement la main et s'éloignaient, arrêtés eux aussi par des gens qui leur parlaient avec déférence et le chapeau bas. Dans cette rue silencieuse, malgré sa navette ininterrompue de monde, dans cette chaussée où l'on entendait le roulement mou des fiacres sur l'asphalte, certains jours de la semaine, un homme se promenait, coiffé d'un melon de cuir noir, orné de ciseaux peints en blanc, une petite caisse retenue sur l'épaule par une bretelle, chantant sur un mode lugubre « V'là le tôleur, tôle les chiens, coupe les chats et va en ville !» À d'autres moments, un « Ô vitrier !» s'élevait progressant, longeant sa note stridulée, ou bien un repasseur roulant devant lui sa petite meule, remuait à chaque pas une sonnette accompagnée au loin par l'aigre solo qu'un fontainier jouait sur une corne. Le mardi, vers 4 heures, un bruit nouveau dominait les autres. Des voitures particulières, emportant dans leurs caisses des flots de toilettes claires, s'arrêtaient devant un petit hôtel à un étage, contigu à la maison où logeait André, et un vigoureux coup de timbre retentissait, annonçant les visites, suivi de près par le choc lourd des vantaux qu'on referme. André commençait à classer les rumeurs diverses qui montaient sous sa terrasse. La vie singulière de la rue Cambacérès lui arrivait de moins en moins confuse. Il voyait se dégager peu à peu de ses bâtisses décolorées ou badigeonnées d'un jaune d'ocre une mélancolie de locaux inhabités pendant des mois, aux persiennes et aux portes closes, une banale opulence de pension de famille, une tristesse de rez-de-chaussée que n'égayait aucune industrie et aucun commerce. Une sorte d'ennui prévalait, l'ennui d'un lieu de passage, l'ennui de gens ne demeurant point dans ce quartier et ne s'y rendant que par contrainte et que par besoin. C'était en dépit de la vie factice et courte qu'insufflaient à cette rue les bureaux du ministère la teinte lugubre d'une province morte. André s'applaudit en somme de résider dans un quartier aussi recueilli et aussi tranquille. Mais Mélanie, qui s'intéressait peu à l'atmosphère spéciale de ces rues, se borna à trouver ce coin de Paris malhonnête. La vie coûtait 2 fois plus cher que dans les autres, disait-elle, et il fallait marcher pendant des heures avant que d'apercevoir un épicier ou une fruitière. Elle assomma son maître de plaintes, déclara ne pas vouloir aller au marché parce que toutes les paysannes étaient des chipotières et des friponnes. Elle ajouta enfin qu'elle achèterait dorénavant ses provisions le matin en traversant le gros caillou. À l'entendre, les avenues situées derrière les Invalides était un pays de cocagne où les commerçants vendaient à perte. André lui répondit simplement qu'elle était parfaitement libre de trimballer, si bon lui semblait, un panier plein pendant des lieues. Quant aux économies qu'elle prétendait réaliser par ce système, il y crut d'autant moins qu'elle continua à exhiber tous les deux jours une interminable liste de dépenses. Libre de se pourvoir où qu'elle voudrait, Mélanie se tint parole et s'attira de la sorte dans le quartier d'Anjou-Saint-Honoré la réputation d'une râleuse. Une animosité extrême succéda aux plates flatteries que les marchandes lui débitèrent par cupidité. Les premiers temps, puis les querelles sourdes enfilèrent et, débordant des trottoirs, entrèrent comme un flot d'eau grasse dans la loge du portier. Furieux de ne pas faire le ménage d'André, excité par les colères des boutiques où stationnait sa femme, le concierge brandit un règlement qui interdisait de monter de l'eau et du bois et de secouer les tapis après 10 heures. Ce fut entre la loge et la cuisine une lutte quotidienne, un combat acharné pour une goutte d'eau, pour une brindille de coteraie tombée dans les escaliers. André s'inquiéta, eut peur que ces collisions ne l'atteignissent. Il ordonna à Mélanie de rester tranquille, graissa la patte du portier, parvint à force de largesse et de petits soins à obtenir une sorte de trêve. Pour récompenser sa bonne d'avoir bien voulu remiser son humeur chagrine, il écouta même des histoires à dormir debout qu'elle jugea utile de lui raconter. Des garçons de bureau et même des employés du ministère lui faisait de l'œil dès qu'elle apparaissait sur la terrasse. Elle affectait un courroux qu'elle n'éprouvait réellement pas, étant flattée au fond de ses attentions qu'elle narrait en les déplorant avec trop de détails. André haussait les épaules. La vertu de Mélanie l'intéressait peu. Ce qu'il voulait surtout, c'est qu'elle n'ameutât point la curiosité de la rue sur elle. Il était payé pour savoir à quoi s'en tenir sur les races jacassières des boutiquiers. Les potins et les calomnies que Cyprien rapporta le jour où il s'en fut surveillé le déménagement de son ami avaient dépassé, comme étiage, toutes les crues des sottises connues. Du charbonnier chez la fruitière, de la fruitière chez le boulanger, du boulanger chez le pharmacien, ça avait été un assaut de malpropretés et d'insultes. L'opinion de tous ces gens se rencontrait avec celle de M. Desablot. André entretenait une modiste. On la dépeignait même. Tout le monde l'avait vue, une blonde fatiguée qui manquait de dents. C'était avec elle qu'il mangeait tout l'argent de son ménage. Il laissait sa femme se morfondre dans un coin, une pauvre petite femme qui avait l'air si honnête et si doux. Oh, je te l'aurais fait marcher, moi, à la place de cette bourgeoise, disait l'une. Oh, vous l'auriez pas fait marcher plus qu'une autre, ripostait une voisine, que son mari rouait de coups. Et la marchande, tout en abusant de leurs disputes pour les mal servir, les mettait d'accord en affirmant que tous les hommes étaient bons à jeter dans le même sac. Et c'était chaque jour de nouvelles découvertes saugrenues, des rapports lointains qu'on apercevait entre le départ d'André et des histoires d'abandon insérées dans les journaux. C'étaient des thèses soutenues par d'intarissables cancanières, des allusions aux autres ménages de la rue, des médisances effacées et ravivées soudain l'une et sur l'autre. Oh, la maîtresse de ce gars-là, c'est une écuyère, déclara péremptoirement le boulanger qui sut qu'André écrivait. Et il citait à l'appui de son dire des bavettes nébuleuses, des arguments qui ne prouvaient rien. Où ils étaient tous du même avis, par exemple, c'est quand il prétendait qu'André avait bien la figure de ce qu'il était. Le malheureux se serait sauvé pour ne pas payer ses dettes, qui n'aurait prêt à cumuler sur lui plus de fureur et plus de haine. Puis un beau soir, dans ce concert d'imprécations, La concierge, échauffée par le cassis, donna sa note. Elle révéla des détails inattendus sur la femme d'André. Alors les langues qui commençaient à s'arrêter tournèrent de plus belle. Elle avait un amant ou l'avait entrevu la nuit alors qu'André le reconduisait en éclairant. Sans nul doute, ils étaient tous de connivence. L'amant était le fils d'un capitaliste, il entretenait le mari et la femme. André était un fainéant et un sagouin, un homme sans profession, un journaliste, un flâneur qui trafiquait des femmes. Alors, Berthe eut la réputation d'être une dévergondée d'une hypocrite. Son teint pâle, qui fut d'abord celui d'une pauvre femme qui se ronge les sangs parce que son mari la délaisse, devint l'ignoble lividité d'une fille épuisée par la noce. Puis il y eut encore un revirement en sa faveur. C'était cette horreur d'homme qui l'avait corrompue. Elle appartenait à une bonne famille. Monsieur Desablots, son oncle, avait l'air d'un monsieur respectable. Et les injures qu'il avait déversées sur André, en présence de plusieurs personnes, montraient bien là le mépris que lui inspirait le mari de sa nièce. Cyprien demeura interdit. Il regarda, résigné, vider ce tombeau d'infamie sur son camarade. Des calomnies s'échappaient maintenant de toutes les boutiques, s'attardaient sur tous les trottoirs et de là, s'amassant dans la loge des concierges, se répandaient dans les cours, entraient comme une fumée fine sous la porte des paliers, emplissaient les cuisines, accompagnaient les bonnes dans les salles à manger de leurs maîtres, envahissaient jusqu'aux alcôves. Des boutiquiers se vengeaient ainsi de l'hiver subi. Comprimés dans leurs cages, les portes fermées, n'ayant même pu se ménager des éclaircies, en frottant avec les doigts de la buée qui leur voilait la rue, ils s'étaient morfondus derrière les fougères d'argent dont la gelée entamait leurs vitres. Et les racontages des bonnes n'avaient pu les rassasier. Aux aguets derrière leurs comptoirs, ils avaient en vain tenté de suivre de l'œil les passants et de cracher dans le dos des personnes qui les faisaient vivre. La contrainte que le froid leur imposa les rendit féroces. Toutes les mesures qu'André avait imaginées pour étouffer l'éclat de son malheur ne servirent de rien. Pendant quelques jours, il ne fut question que de son départ. Et Cyprien, qui lui narra en les émondant les ineptes âneries qu'on dégoisait sur son compte, aurait pu ajouter encore, s'il l'avait su, que lui-même n'avait pas été plus épargné. Il était le confident du mari, un monsieur de son espèce, vivant sans doute aux dépens des filles. Le boulanger lui opinait dans un sens un peu différent. Il admettait volontiers que le peintre fût une canaille, mais il pensait que c'était lui qui avait séduit la femme d'André. Il étayait du reste son dire de raisons profondes, basées sur l'amitié qui liait les deux hommes. « On n'est jamais trompé que par ses amis, disait-il. Mais alors, dans ce cas-là, André n'était plus qu'un jobard, mari qu'on pouvait plaindre et non attaquer. » Cette supposition parut inadmissible. Une partie du voisinage hésitait pourtant. Mais la concierge, ayant affirmé que Cyprien, vu de dos, ne ressemblait pas à l'amant qui possédait, autant qu'elle avait pu les apercevoir dans la nuit, des épaules plus larges, eut gain de cause. On se contenta d'envelopper dans la même réprobation André, Cyprien et Berthe. On expliqua subitement les causes pour lesquelles ce ménage changeait si souvent de bonne et comment il en était finalement privé. Une fille qui se respectait quittait cette maison au bout de 8 jours. Si peu dégoûtée que pût être la dernière, qui ressemblait pourtant à une vraie catin. Elle avait eu des haut-le-cœur et en avait rendu de dégoût son tablier. Une véritable maison de passe, conclut le quartier en cœur. On savait réellement à quoi songeait la police en tolérant des saletés pareilles. André eut d'abord la tentation d'aller casser une canne sur le nez du boulanger et de la portière, puis il réfléchit que ce serait stupide et qu'il aurait tous les torts. Il ragea et se tint tranquille. Il était arrivé au bout de quelque temps, un solide et calme mépris de ses baies litres, quand les disputes de Mélanie et du concierge réveillèrent ses fureurs et lui firent appréhender, dans sa nouvelle rue, une semblable explosion d'ordures. Il ne respira et ne reprit véritablement son assiette que lorsque les querelles parurent avoir désormais pris fin. Une, deux, trois semaines s'écoulèrent encore. Il entra dans une période complète de quiétude, travailla d'arrache-pied et, à l'abri des revendications de Berthe et des Desablots, qui acceptaient les conditions posées par le notaire, isolé des relations ennuyeuses et des corvées du monde, allégé des tracas du ménage, savourant la paix d'un homme constamment déboutonné et en pantoufles, il rappela peu à peu ses manies de garçon, s'épanouit dans un bonheur de sans-gêne et de bonne chère, il se trouva en un mot parfaitement heureux.